chers auditeurs, bienvenue dans ce libre journal sur Radio Courtoisie. Jamais nous n'avons vécu dans une société aussi libre, aussi riche en choix et en possibilités qu'aujourd'hui, et pourtant les souffrances psychologiques ne cessent de progresser, l'anxiété, le sentiment de fragilité, la perte de sens et le sentiment de décalage semblent toucher un nombre croissant de personnes. Beaucoup expriment une forme de désorientation profonde, comme si les repères traditionnels s'étaient effacés sans que de nouveaux solides et partagés ne les remplacent. Donc dans cette époque d'informations abondantes, mais de vérités fragmentées où la subjectivité prend parfois le pas sur le réel commun, où tout semble devenir construction sociale ou identité à revendiquer, comment comprendre ce paradoxe ? Pourquoi la liberté promise s'accompagne-t-elle si souvent d'un malaise intérieur grandissant ? Et surtout, quelles ressources psychologiques nous permettent encore de résister à la polarisation et de réapprendre à habiter le réel avec plus de solidité ? Pour explorer ces questions avec finesse et humanité, j'ai le plaisir d'accueillir Justine Monnet, psychologue. Elle accompagne au quotidien des adultes traversant des périodes d'anxiété, de burn-out, de doute ou de perte de sens. Très active sur Instagram, où elle touche un large public avec une parole claire et incarnée. Elle aide ses patients à cesser la lutte contre eux-mêmes et à reconstruire une vie alignée sur ce qui compte vraiment pour eux. Son approche, ancrée notamment dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, ainsi que son propre parcours marqué par une longue errance thérapeutique et un diagnostic tardif qui a changé sa relation à elle-même, lui donne une écoute particulièrement juste des mots de notre temps. Donc nous allons cheminer ensemble à travers le climat psychologique actuel, la question des repères et du réel commun, les effets des étiquettes et des identités, les tensions dans les relations entre hommes et femmes, il y a de quoi dire, et les pistes concrètes pour retrouver un peu de stabilité intérieure et collective. Eh bien, Justine Monnet, bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour Jean-Étienne, merci à vous pour l'invitation et de me permettre de m'exprimer sur ces sujets qui me tiennent particulièrement à cœur.
Eh bien, écoutez, avec grand plaisir. Je vais directement attaquer avec la première question. Vous accompagnez donc Justine de nombreuses personnes au quotidien. Quel est le climat psychologique et émotionnel que vous observez aujourd'hui et qu'est-ce qui vous frappe le plus dans les consultations en ce moment ?
Je dirais que, en fait, de manière générale, ce qui revient le plus, c'est l'anxiété et un sentiment d'épuisement aussi, et de perte de sens, de perte de repères aussi. Enfin, les gens se disent régulièrement se sentir perdus. Mmh. Et même derrière les demandes comme la dépression ou le burn-out ou comme ça, si on creuse, il y a souvent une anxiété derrière, je dirais. Et vraiment un sentiment un peu de confusion, d'être perdu. Et ça, je pense vraiment que c'est ce qui ressort de manière générale presque dans toutes mes consultations. Après, bien sûr, les problématiques sont individuelles, donc ça se décline de différentes manières, mais
d'accord,
c'est ce qui ressort le plus.
Et vous pensez que c'est dû à... Voilà, enfin, c'est devenu de pire en pire, c'est dû à l'époque qui est de plus en plus...
Alors après,
anxiogène.
Probablement que ça joue un grand rôle, mais je ne pourrais pas non plus dire, moi, de ma propre expérience, si j'ai vu une évolution ou non, étant donné que je n'ai pas suffisamment d'expérience, je suis encore assez jeune. J'ai commencé à exercer en 2022, donc voilà, je n'ai pas pu voir une évolution. Mais c'est vrai que je pense que l'époque qu'on traverse est quand même particulièrement anxiogène. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Beaucoup d'informations. Justement, on n'a jamais eu autant d'informations, mais les gens sont justement de plus en plus perdus face à cette masse d'informations, parfois contradictoires d'ailleurs. Et comme je dis, un peu cette crise du réel où finalement il n'y a plus de base commune. Mm-hmm. On, on, il n'y a plus vraiment de filtre non plus dans les informations. Aujourd'hui, tout le monde peut partager un peu n'importe quoi à travers les réseaux sociaux. Et donc, chacun peut, en fonction de ses biais, les algorithmes aiment bien nous servir un peu ce qu'on croit déjà. Et donc, chacun a un peu sa vision de la réalité. En général, c'est souvent des informations anxiogènes. Donc, oui, je pense que ça joue un grand rôle quand même, même si c'est multifactoriel comme tout en psychologie.
Oui, voilà, c'est ça aussi, oui. Et beaucoup de repères traditionnels ont bougé, hein, ou se sont effacés. Comment ressentez-vous cette évolution dans votre pratique? Et les patients expriment-ils une forme de désorientation plus marquée qu'auparavant?
Alors, plus marquée qu'auparavant, je ne peux pas vraiment dire. Évidemment, mais oui, je pense qu'avant, justement, ces repères traditionnels qui étaient un peu la famille, la religion, la communauté, les rôles sociaux, ils avaient beaucoup de désavantages, mais finalement, ils permettaient aussi un peu de structurer, de donner un chemin, d'orienter. Et aujourd'hui, finalement, tout est un peu déconstruit. Et donc, tout est un choix. Et ce qui fait aussi que les gens sont un peu perdus, parce que si tout est sujet à choix, s'ils se loupent, ils sont responsables de leurs erreurs. Et donc, vraiment, il y a une forme de grande responsabilité sur l'individu.
Un gros poids, non ?
Voilà, une surresponsabilisation. Et donc, je pense que certains de ces repères traditionnels devaient être déconstruits, parce que, ils étaient quand même à certains points très rigides, et c'est très bien. Je veux dire, c'est important de pouvoir toujours remettre en question, d'ailleurs, ce qu'on prend pour acquis, ce qu'on prend pour vrai, c'est bien de pouvoir y penser, en prendre du recul. Mais tout déconstruire sans reconstruire après, ça fait qu'on est perdu, en fait.
C'est vrai. Effectivement. Et dans une époque, Justine Monnet, d'informations abondantes, on a de plus en plus de mal à s'entendre sur les faits eux-mêmes. Hein. Comment expliquez-vous cela ?
Justement, je pense que déjà, avec cette avalanche d'informations qu'on a à travers les réseaux sociaux, notamment, et le fait aussi que les réseaux sociaux amplifient cette bulle, en fait, on a un peu toujours cette tendance au biais de confirmation. Quand on croit quelque chose, on va chercher les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Et les réseaux sociaux l'ont bien compris aussi à travers les algorithmes. Donc, on a tendance à toujours rester un peu dans cette forme de bulle. Et ce qui fait que les opinions deviennent de plus en plus polarisées. Et on n'est même plus d'accord sur finalement une base commune qui permettrait de débattre. Parce que, évidemment, la subjectivité est... On a tous une part de subjectivité. On ne peut pas être objectif en tant qu'être humain. On voit la réalité à travers nos filtres. Mais si on n'a même pas une base de réel sur laquelle on peut construire, débattre, discuter, ça devient très, très compliqué. Après, je veux dire, c'est compliqué de s'entendre sur les faits parce que les opinions deviennent de plus en plus polarisées, que les gens s'identifient de plus en plus à leurs opinions. Et donc, les remettre en question, c'est presque comme s'ils se remettaient eux-mêmes en question.
Ça, vous le constatez, excusez-moi, je vous coupe, vous le constatez sur Instagram, parce que vous êtes très active, je le rappelle, sur Instagram, de façon générale.
Alors sur les réseaux, tout est amplifié. Oui. Et je pense que c'est aussi important de faire la part des choses entre les réseaux et la réalité, justement, parce que...
Vous devez être terrifié sur Instagram, alors.
Un peu quand même, oui. Je n'aime pas les réseaux sociaux, d'ailleurs. Je me suis pliée un peu au jeu des réseaux sociaux en me lançant comme indépendante. Aujourd'hui, finalement, si on veut se faire connaître, c'est un peu le meilleur moyen. Mais j'ai jamais aimé les réseaux sociaux, justement, parce que je trouve que ça amplifie vraiment tous ces biais... de l'humain. En plus, derrière un écran, il y a une forme de désinhibition, donc les gens n'ont plus de filtre comme ça. Et c'est vrai que oui, alors là, je vois clairement une grande polarisation et le fait que parfois le débat est juste impossible, même la discussion, je dirais même pas le débat, mais simplement la discussion n'est pas possible. Il suffit qu'on ose affirmer une opinion qui est un peu divergente de la bien-pensance pour vraiment se faire attaquer assez violemment. Ça m'est arrivé quelques fois, et pourtant je pense avoir un discours très nuancé sur les réseaux.
Tout à fait, je confirme.
Je ne suis pas du tout militante, vraiment. J'ai toujours critiqué les extrêmes dans tous les côtés, je veux dire, et j'ai pas un discours haineux, voilà, mais il n'empêche que,
Oui, enfin, ils trouveront toujours quelque chose, de
voilà,
toute façon, à
il y a
dire.
toujours de quoi.
On en sait quelque chose, alors, ici.
Effectivement, donc, ouais, je pense que ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir avoir des discussions constructives si on n'a même pas un
Dommage.
cadre de base sur lequel on peut s'entendre.
Dommage, d'autant plus que, voilà, si je vous invitais, c'est que je trouve évidemment vos publications Instagram, j'invite d'ailleurs les auditeurs à les regarder. Pertinente et voilà, vous amenez plutôt du sens à ce qui bah, où il y en a plus quoi. Donc les gens au lieu de se défouler feraient mieux un peu de regarder un peu plus. Je suis sûr qu'il y en a qui regardent même pas ce que d'ailleurs ce que vous devez publier qui voilà
Bah, je
qui
pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment des sujets un peu tabous qui suffit juste de dire certains mots ou d'aborder
c'est
certains
ça.
sujets pour être
C'est ça que je voulais
disqualifié, en
dire.
fait. Ouais, vraiment, sans aller vraiment jusqu'au bout et écouter réellement ce qui est dit.
D'accord.
Je pense que les gens ont plus l'attendre sur les réseaux. C'est vraiment comme si tout le monde essayait de s'exprimer, mais qu'il n'y avait personne qui essayait d'écouter. C'est vraiment un dialogue de sourds à certains moments, en fait. Où on essaie plus de convaincre les déjà convaincus et enfin c'est assez stérile en général. Mais après encore une fois, tout n'est pas no tout noir, tout blanc. J'ai fait des
Heureusement.
super rencontres aussi à travers les réseaux sociaux et ça permet aussi justement de pouvoir s'exprimer de façon libre quand même, enfin plus ou moins, et de pouvoir atteindre un public plus large, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir, enfin ouais, il y a vraiment des super points comme pour tout, mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup de. Il faut vraiment l'utiliser avec conscience, je pense.
Avec parcimonie, comme on dit. Non?
Parcimonie, mais conscience surtout. De
D'accord.
pas le faire. Parce qu'en plus, c'est un peu un côté addictif. On a tendance à le faire de façon un peu automatique et en cherchant un peu cette dopamine instantanée. On a tous un peu un biais de négativité en plus. Donc, je veux dire, notre cerveau a tendance à filtrer les informations qui sont assez chocs, négatives, etc. Les réseaux l'ont très bien compris et de pouvoir avoir un peu des fois l'esprit critique, de vraiment se demander si c'est vrai aussi ce qu'on regarde, de où ça vient, enfin de se poser la
Ça devient
question de ce
compliqué,
qu'on
ça.
consomme finalement. Je crois qu'il y a eu une étude qui avait montré que les contenus, enfin les fake news ou comme ça, avaient 70% de chances de plus d'être partagés
Tout à
que
fait.
les autres. Donc
Je vois de quoi vous
c'est
parlez.
vraiment important de pouvoir prendre un pas de recul quand on consomme du contenu sur les réseaux sociaux.
Justine Monet, juste une petite pause, un petit message pour nos auditeurs.
Face à l'offensive de la gauche pour bâillonner les médias vraiment libres, Radio Courtoisie a plus que jamais besoin de vous pour se renforcer, pour se protéger, pour défendre vos idées. Vous êtes 1,5 million, presque 2 millions à nous écouter, mais vous n'êtes pas encore 20 000 à nous donner. Vos idées valent bien 1 euro. 1 euro pendant l'été, pourquoi pas 1 euro par mois? 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Cet été, aidez Radio Courtoisie à donner de la voix. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016, Paris. Radio Courtoisie, libre et indépendante, grâce à vous.
Et j'en profite aussi, chers auditeurs, pour vous rappeler de ne pas oublier de vous rendre sur soutenir.rc.fr ou de nous envoyer un chèque au 61 Boulevard Murat, 75016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours, toujours besoin de vous. Justine Monet, quand la subjectivité prend une place très importante dans la façon dont chacun perçoit le monde, qu'est-ce que cela change dans dans les échanges justement humains et dans la vie psychique des individus?
Ben, déjà, je dirais que la subjectivité, le ressenti, c'est vraiment central en thérapie. C'est vraiment, personnellement, je travaille avec le ressenti. Et un ressenti est toujours valide, une émotion est toujours valide, c'est important de l'accueillir, ben, elle apporte un message. Par contre, ce qui est, enfin, je veux dire, l'interprétation qu'on fait dessus n'est pas forcément valide, n'est pas forcément juste, ça ne reflète pas la réalité. Je veux dire, si la subjectivité est centrale en thérapie, De manière sociétale, je pense que c'est un problème quand la subjectivité devient centrale, justement. Parce qu'on ne peut pas, finalement, faire une base commune à partir de subjectivité, parce qu'il y a des milliards de subjectivités, justement. Et le problème qu'il y a, finalement, c'est qu'on a tendance un peu à mélanger le ressenti avec la réalité.
Tout à fait.
Je veux dire, si quelqu'un vous dit quelque chose... et que vous le recevez comme une attaque personnelle ou comme ça, ça ne veut pas dire forcément que la personne vous attaque. Vous l'avez peut-être ressenti comme ça. Et votre ressenti ne dépeint pas ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse faire encore la part des choses entre les faits et le ressenti. Et de ne pas mettre le ressenti forcément toujours de manière centrale, comme si c'était sacré, qu'on ne pouvait pas le remettre en question. Alors, il est valide, ça dit quelque chose, c'est un message, il mérite d'être accueilli, d'être respecté, mais pas forcément d'être pris comme au même titre que des faits et de le mélanger vraiment avec la réalité.
D'accord. Ce qui pour vous est ce que vous constatez régulièrement?
Disons que j'ai l'impression justement que à partir du moment où on raisonne tous à partir de la subjectivité de manière au quotidien ou comme ça dans la vie ou sur les débats ou voilà, ça devient compliqué de s'entendre parce que on a tous nos subjectivités et si on n'arrive pas à se détacher de ça pour vraiment revenir aux faits et ensuite pouvoir parler en jeu et enfin à la première personne, je veux dire, et bien distinguer ce qui relève de moi et de ce qui relève des faits, et finalement on arrive sur des discussions impossibles parce qu'on ne peut pas remettre en question un ressenti, évidemment. Mais par contre, on peut remettre en question l'interprétation du ressenti. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on soit capable de, et qu'on l'entraîne nous-mêmes aussi, de manière générale, de pouvoir à un moment donné s'arrêter et se demander si ce qu'on ressent est réellement... il y a un reflet de la réalité, ou s'il y a une émotion qui est une interprétation, et si c'est une histoire qu'on se raconte sur le réel. Je veux dire, il y a les faits, il y a l'histoire qu'on se raconte. Oui, et de pouvoir faire vraiment la distinction entre les deux.
Et cette mise en doute permanente, Justine, du réel, a-t-elle, selon vous, un impact sur la santé mentale, notamment sur le sentiment de stabilité intérieure?
Personnellement, je pense, oui. Parce que, en tant qu'humain, on a tous un peu un minimum besoin de prévisibilité, de pouvoir anticiper. Et plus il y a de l'ambiguïté, plus les choses deviennent négociables ou un peu finalement floues, plus on aura tendance à être dans l'hyperanalyse, dans la rumination, à réfléchir, à être dans une forme de tentative de contrôle pour retrouver un peu un sentiment de stabilité quand tout est flou. Et donc, ça peut être extrêmement déstabilisant. Et à un moment donné aussi, si on commence à tout remettre en question, vraiment à des échelles quand même, là, maintenant, on voit que finalement, il y a, dans certains discours, encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais dans certains discours qui sont quand même assez audibles, on va dire, il y a quand même une volonté de tout déconstruire finalement. Et si plus rien n'est vrai, si plus rien n'est sûr, si même des fois la biologie est remise en question, la science est remise en question, le subjectif devient roi et finalement, tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et il n'y a plus de cadre, et évidemment que c'est extrêmement anxiogène. Finalement, tout peut être sujet à erreur, vu que tout est sujet à choix. Donc, effectivement, ça peut être
sur
très déstabilisant.
Tous les sujets,
oui, vraiment. Là, maintenant, j'ai l'impression que vraiment tout est sujet à être déconstruit, en fait. Et comme je disais, il y a des choses qui méritent d'être déconstruites, mais après, déjà, il faut reconstruire derrière. Et déjà, j'aime pas ce terme de déconstruire. Pour moi, je veux dire, ça, c'est une opinion personnelle, mais pour moi, l'opposé de construire, c'est détruire. Et déconstruire, alors voilà. Pouvoir dire ça, c'est une construction sociale, la remettre en question, y réfléchir, voir d'où elle part, etc. C'est très bien. Mais de tout, finalement, un peu détruire et plus rien mettre à la place, eh ben, je pense que ça donne un climat extrêmement anxiogène et déstabilisant, en fait. On s'appuie sur quoi ?
C'est ce que j'allais vous dire, on s'appuie sur quoi ?
Donc, ouais, je pense que ça a un impact sur la santé mentale. Et ben, je l'ai vécu aussi, là je peux parler par contre en mon nom, et donc avec toute la subjectivité. Mais ben, pour moi, ça a été très déstabilisant parce que j'ai eu une période où effectivement j'ai été très dans cette mouvance à tout vouloir déconstruire. J'étais un peu dans ce côté très militant aussi, même féministe, etc. Enfin voilà, à tout remettre en question. Et à force de tout remettre en question, ça n'a plus de fin. Et j'en suis arrivée presque à faire des épisodes de déréalisation, donc où j'avais l'impression que plus rien n'était vrai. C'était extrêmement angoissant. Et là, finalement, j'ai vraiment perdu pied. Ça a été une période de ma vie très, très anxiogène. Et ce qui m'a aidée, finalement, c'était vraiment de revenir au réel, en fait, de revenir dans l'ancrage, de regarder les choses. De revenir dans mon corps, de regarder autour de moi, de sortir un peu des réseaux sociaux.
J'ai eu l'impression carrément de sortir.
Oui, j'avais l'impression que plus rien n'était réel, en fait. Je commençais à questionner vraiment tout.
Vous savez que j'ai eu des retours comme ça de justement d'invités ceux qui m'ont même précisé, soyons cash, qui étaient de gauche d'ailleurs, et qui, après qu'on soit de gauche, droite, machin, mais c'était le cas pour le coup, et qui m'ont effectivement fait part de ce sentiment d'être complètement perdu, enfin exactement ce que vous décrivez effectivement. Alors, je ne sais pas si vous aussi c'était un peu le cas, mais c'est vos opinions.
Je pense pas que ça. Enfin, c'est pas une question forcément d'opinion politique ou comme ça. Voilà, c'est juste une question d'à force de vraiment tout questionner à l'extrême et de ne plus avoir de socle. Et ben, effectivement, ça devient anxiogène. D'autant plus et ça devient aussi un terreau fertile pour adhérer justement aux idéologies. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus rien sur lequel on se rappuie, etc., on va chercher des choses sur lesquelles se rappuyer, vu qu'on est complètement déstabilisé. Et ben là, quand on a des discours très simplistes, généralement assez émotionnels, et qui prétendent avoir des réponses simples à des problématiques extrêmement complexes, ça peut être aussi très séduisant. Et quand on est un peu dans ces périodes de vulnérabilité où on est perdu, on aura beaucoup plus tendance à adhérer à des idéologies extrêmes. Et là, peu importe dans quelle idéologie, on peut parler de tout, ça peut être dans des religions,
Vous dire le wokisme, par exemple.
Ça peut être le wokisme, mais ça peut aussi être l'extrême droite, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais c'est ces discours où il n'y a plus de nuances, justement, où on simplifie à l'extrême la réalité. Et ben, c'est très tentant, finalement, parce que c'est vrai que c'est anxiogène, à partir du moment où on essaie vraiment de réfléchir sur le monde de manière complexe, parce que, soyons francs, en tant qu'être humain, on a notre cognition est très limitée, je veux dire. Ok, on a un super cerveau qui nous permet de faire beaucoup de choses, mais bon, on n'est pas non plus hyper bien équipé pour appréhender le monde de façon objective du tout. Toutes les problématiques sont extrêmement complexes, multifactorielles. Plusieurs réalités peuvent coexister et paraître contradictoires aussi, ce qui est très dur à envisager dans notre cerveau. Donc, déjà, ayons l'humilité d'admettre qu'on ne comprend rien, qu'on ne sait rien, que plus on en sait, plus on se rend compte de tout ce qu'on ne sait pas. Mais après, quand on a des discours qui sont très, justement, un problème, une solution. Donc, en général, en plus, c'est une vision du monde très binaire, les gentils, les méchants. Et ça peut être tentant parce que ça évite de penser, en fait. L'idéologie évite de penser. Et donc, quand on arrive dans cette déstabilisation, justement, parce qu'on déconstruit tout, on ne sait plus où on en est, et qu'ensuite, on a ce genre de tentation d'adhérer à une idéologie qui nous évite de penser, ça peut être tentant. J'en ai aussi un peu fait l'expérience, à travers la spiritualité, notamment, New Age, etc. Enfin, voilà, où ça peut être aussi une autre forme de... Et sur le moment, sur le court terme, je dirais ça peut être un peu soulageant. parce que ça nous permet d'être dans une forme de confort psychologique. On a l'impression d'avoir compris. Il y a même des fois un peu une forme de sentiment presque de supériorité, regardant les autres en se disant « Oh, ils n'ont rien compris, mais moi, j'ai compris. Mm-hmm. » Et ça peut être assez confortable, ça évite de se remettre en question, enfin voilà. Et en même temps, c'est mortifère. On n'évolue pas et aussi, au bout d'un moment, bah, finalement, on ne se sent toujours pas mieux sur un plan psychologique. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir rester ancré, de pouvoir rester un peu terre à terre. Ce qui ne veut pas dire rejeter, de ne pas avoir d'opinion, de ne pas avoir de croyances religieuses, etc. Ça peut être aidant aussi, mais voilà.
Parce mais de terre pouvoir, à terre, ça peut...
Non, je ne dis pas d'être complètement cartésien, matérialiste, etc. Pas du tout, mais de pouvoir garder un contact avec la réalité, de pouvoir garder quand même un peu d'esprit critique, de ne pas non plus tout remettre en question. Enfin, oui, remettre en question, oui, mais pas tout vouloir détruire. Mmh. Et de pouvoir aussi revenir un peu dans le réel, des fois se déconnecter pour se reconnecter, j'ai envie de dire, se déconnecter de tout ce qui est réseaux sociaux pour se reconnecter au réel, aux autres, à la nature. Enfin voilà, et il y a quand même des fois un gros décalage entre ce qu'on voit dans la bulle algorithmique et puis la vraie vie, quoi. Enfin.
Et tout est-il vraiment une construction sociale? Que perd-on lorsqu'on ne partage plus un réel commun? Une société peut-elle fonctionner durablement sans repère commun?
Bon, c'est un peu ce que j'ai dit, mais alors par rapport au tout est construction sociale, j'ai envie de dire... bon, déjà, non. Mm-hmm. Concrètement, non, mais beaucoup, évidemment que beaucoup de choses sont des constructions sociales. Il y a un modèle d'ailleurs en psychologie qui est le modèle biopsychosocial et qui prend bien en compte qu'il y a une réalité biologique, une réalité psychologique, une réalité sociale. Et on est toute expérience est un peu un mélange de tout ça. Et après, de pouvoir déterminer qu'est-ce qui fait partie du biologique, qu'est-ce qui fait partie du social, etc., ça peut être un peu compliqué. Mais tout n'est pas une construction sociale. Ça, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même un peu le rappeler, parce que bon, ça me paraît logique, mais apparemment, ça ne l'est pas.
Pas pour tout
le monde. Et il y a des réalités biologiques, il y a des réalités historiques, il y a des réalités scientifiques. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses qu'on ne peut pas non plus toujours questionner. Et après... beaucoup de choses aussi sont sociales, il y a beaucoup d'interactions entre tout ça, voilà. Et ce n'est pas une raison non plus pour devenir essentialiste, et puis voilà, il n'y a que la matière, etc. Non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut aussi savoir faire la part des choses, et puis se rappeler qu'on a quand même un peu un socle de réalité, et qu'on ne peut pas toujours remettre en cause. Il y a des réalités... voilà, qui sont un peu immuables et que... Ouais. Et après, les constructions sociales aussi, finalement, il y a des constructions sociales qui étaient très rigides et qu'il est important de déconstruire, même de détruire, j'ai envie de dire, oui. Mais en même temps, c'est aussi, je pense que ça pourrait être intéressant de se questionner pourquoi ces constructions sociales sont arrivées, sur quoi elles reposent, parce que en général, il y a quand même aussi une réalité derrière ces constructions sociales, une réalité tout court.
Oui, voilà.
Et qui fait que ces constructions sociales ont pu se construire et ont fonctionné un temps où il y a des raisons. Peut-être se demander pourquoi, d'où ça vient et jusqu'à où est-ce que c'est important de les remettre en question? Comment on pourrait les faire évoluer plutôt que de les détruire complètement aussi? De les faire s'adapter un peu finalement? Parce que je pense aussi qu'il y a... parce que je sais que sur votre radio, vous avez plutôt tendance à critiquer la gauche, on va dire.
Critiquer.
Mais oui. Je dirais aussi qu'à droite, il y a un peu cette tendance à ce biais où j'ai aussi tendance à tomber souvent dedans, ce « c'était mieux avant ».
Ah oui,
et
d'accord.
Qui peut un peu finalement figer dans l'immobilisme. Et finalement, voilà, on ne veut pas trop changer pas les institutions. C'est très bien refuser un peu... l'évolution, la progression, et ça c'est aussi assez mortifère, et c'est pour moi c'est tout aussi finalement on va dire préjudiciable pour la société que l'extrême inverse. Mm-hmm. Je pense que c'est important aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser. Après, ce qu'on appelle progressisme aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas du progrès sur certains points. J'ai envie de dire, c'est non. Sur certains points, je pense que c'est clairement pas. Enfin voilà, y a des, c'est plutôt des dérives, on va dire.
D'accord.
Mais c'est important justement de pouvoir faire évoluer ce qu'on a pris un peu toujours pour acquis, qu'on n'a jamais questionné. Oui, c'est important de le faire évoluer. Justement, je veux dire, le féminisme, le vrai féminisme, hein, le féminisme, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui féminisme, mais qui est en fait de la misandrie cachée. Le féminisme, par exemple, c'est extrêmement important et ça doit, je pense que ça doit continuer encore parce que on n'a toujours pas forcément atteint l'égalité parfaite en termes de droits et de. Même si je pense quand même que, on va dire, dans nos pays, je suis de Suisse ou en France
oui,
ou comme ça, en termes de
droits
et,
de Suisse, oui.
et de. Voilà, en termes d'égalité d'échange, etc., on est quand même pas mal, hein. On ne va pas se mentir, je pense. Mais c'est important de pouvoir continuer ce combat de recherche d'égalité des droits, d'égalité des chances. Mais voilà, après, y a les dérives aussi qui peuvent arriver de tout ça, mais je ne sais plus où j'en étais, je ne sais pas où je voulais en venir, mais c'est pas très grave.
Vous parliez du féminisme et justement de. Les dérives qui. Alors, moi, j'allais vous demander.
Oui, non, c'était par rapport à justement fait que c'est important quand même de pouvoir évoluer, de remettre en question certaines choses et de ne pas tomber dans un statu quo,
voilà.
Mais sans aller jusqu'à simplement détruire et finalement arriver à un peu à cette. Voilà, tu es ce que tu veux, ton ressenti est roi et. Et finalement, on peut. On fait quoi avec ça? On fait pas une société, je pense. Et, et aussi, finalement, maintenant, c'est aussi un peu cette. Il y a un peu une forme de dictature morale, presque, j'ai envie de dire. Ouais. Et un peu cette peur de pouvoir heurter les sensibilités. Donc, il faudrait heurter aucune sensibilité, vu que le subjectif est devenu central. Il faut faire attention à ne pas heurter, etc. Mais c'est impossible, on ne peut plus rien dire du coup si on peut heurter aucune sensibilité. Donc à un moment donné aussi, je pense que oui, c'est important de pouvoir quand même garder un peu un socle et de pouvoir évoluer, de le faire évoluer, de le faire s'améliorer, de remettre en question, de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, mais pas juste. De détruire et devenez ce que vous voulez et faites ce que vous voulez. Et en fait, ce qu'on nous vend comme de la liberté un peu aujourd'hui, finalement, c'est presque un peu une forme d'abandon, j'ai l'impression.
D'accord.
Et je ne suis pas sûre que c'est extrêmement émancipateur et libérateur pour l'individu.
Ah oui, c'en est carrément de l'abandon, donc.
Je sais pas, je pense que quand il n'y a plus du tout de cadre, comme dans l'éducation, quand il n'y a plus du tout de cadre, et puis que,
oui.
qu'on dit finalement fais ce que tu veux, et puis un peu avec cette utopie qui est très belle, je veux dire, c'est très, très bien de penser un peu finalement l'être humain est naturellement bon, et si on le laisse fleurir, il deviendra magnifique, ce sera un monde merveilleux. C'est très beau, je veux dire, j'y croyais aussi. J'aimais beaucoup Disney, j'ai regardé La Petite Maison dans la Prairie toute mon enfance. Et j'adore cette idée.
Mais on n'est pas dans le monde.
Sauf que, à un moment donné, l'utopie, c'est pas la réalité. Il faut un peu accepter que non, pas forcément. Et si on met pas de règles, si on met pas de limites, si on enlève tout cadre, en fait. On enlève la civilisation. C'est un peu ce processus de décivilisation dont parle Boris Cyrulnik dans son dernier livre, d'ailleurs, que je recommande, qui est très intéressant. Mais si on enlève finalement la civilisation, on en arrive à la loi de la jungle. Et la loi de la jungle, c'est quoi? C'est la loi du plus fort. Donc aussi, le cadre, les structures, enfin, je veux dire, protège les plus faibles, finalement. Plus que les. Parce que si on enlève tout, tout cadre, c'est surtout les plus faibles qui vont le payer.
Ah, clairement, oui.
Donc, L'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein.
Non. Et beaucoup de gens semblent aussi aujourd'hui, hein, Justine, à la recherche d'une étiquette hein, ou d'une identité précise pour se définir. D'où vient, selon vous, ce besoin accru de se catégoriser ?
Le besoin de catégoriser, de mettre dans des cases, ça, je pense, c'est un besoin totalement humain. Parce que, comme je disais avant, notre cerveau est quand même très limité pour appréhender la complexité du monde. C'est impossible. Et donc, pour simplifier, on a besoin de catégoriser. Ouais. Je veux dire ça, toutes les études en psychologie l'ont montré. On a cette tendance à essentialiser. D'autant plus, en fait, finalement, on aura tendance à voir un peu ce qui n'est pas de notre groupe comme beaucoup plus, on va dire, on les catégorise de façon très... comme s'ils étaient tous similaires, mm-hmm. un peu, finalement, pour simplifier notre lecture du monde. Et ça, c'est totalement... normal, et même nous-mêmes, on a besoin d'étiquettes un peu pour savoir qui on est, etc. Enfin voilà, donc le besoin d'étiqueter, de catégoriser, c'est profondément humain. Et d'autant plus quand on est un peu perdu, où il n'y a plus vraiment de point de repère. Avant, on pouvait être aussi facilement... notre identité, c'était notre famille, notre communauté, notre rôle social. Voilà, c'était même assez limité. Hein. Je suis pas du tout en train de dire que c'était mieux, parce que je pense que c'était aussi très... la vision du monde était très limitée. Et puis,
Mais quand je vous dis besoin accru, c'est trop pour vous ?
Est-ce que c'est accru ? Je ne peux pas vraiment le... Je ne peux pas le dire, personnellement. Je pense quand même que oui, parce que d'une certaine façon, vu qu'on n'est plus défini par tous... par notre rôle social, etc. Voilà, on a quand même un besoin d'appartenance aussi. Et en se mettant dans une case, dans une étiquette, on peut un peu trouver son groupe. Et ça peut être très tentant, finalement, de se chercher des étiquettes. Et il y en a de plus en plus. Parce qu'en fait, ce qui est assez paradoxal, je trouve, c'est qu'il y a un peu cette volonté de déconstruire, d'enlever les cases. Parce que voilà, alors maintenant... c'était trop restrictif, les cases d'avant, on veut les enlever. C'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, il y a encore plus de cases. Je veux dire, si on prend l'exemple, par exemple, pour le genre, parce que c'est un exemple qui est quand même assez, assez caricatural, mais qui est quand même assez facile à décortiquer. Enfin, je veux dire, avant, on avait homme, femme. C'est facile, ces deux cases. Ouais. Et donc, on veut enlever ces cases-là parce que ce serait une construction sociale, le genre. Bon, certes. Mais maintenant, en fait, je ne sais pas combien de cases, je ne sais pas combien de lettres il y a après le LGBT aujourd'hui. et donc, en fait, on est juste en train de mettre plus de cases. Mais on revient toujours un peu à cette... Finalement, on ramène les gens à des cases, à cette logique un peu identitaire qui est, pour moi, cette idéologie de l'identité est extrêmement déjà déshumanisante. Et ce que je trouve un peu aussi paradoxal, c'est que on avait tendance justement à critiquer beaucoup l'extrême droite pour ça, justement pour leur côté identitaire, leur justement cette idéologie de l'identité, on est ça, etc., et les autres, enfin nous les autres, là maintenant on est en train de faire pareil à l'autre, de l'autre côté. C'est vraiment, l'identité devient sacrée.
Clairement. Oui.
On vient dans cette idéologie de l'identité qui devient vraiment très... qui m'inquiète quand même, comme, je trouve, comme dérive sociétale. Je pense même que ça trahit certaines valeurs humanistes, universalistes, etc. Donc, après, le besoin d'étiquette, il est naturel, mais... je pense que c'est important aussi de se détacher des étiquettes à un niveau individuel aussi. Je veux dire, on n'est pas notre métier, on n'est pas notre nationalité, on n'est pas notre genre, on n'est pas... Voilà. On est une personne, on est une personne, un individu, on a des valeurs, on a notre personnalité, etc. Ok. Mais on n'est pas une simple identité à défendre. Envers et contre tous, etc. Enfin, je veux dire...
Oui, c'est très juste.
Donc, je pense que c'est important de le déconstruire déjà au niveau individuel.
Et Justine Bonnet, la recherche d'appartenance à un groupe, justement à une communauté, peut-elle parfois aggraver la souffrance au lieu de la soulager?
Ben, ça c'est assez simple. Je dirais pas. Enfin, je dirais plutôt qu'elle aurait tendance à y enfermer d'une certaine façon.
Ah oui.
Peut-être pas à l'aggraver, mais simplement à si ce groupe est basé sur la souffrance comme marqueur d'appartenance au groupe, finalement. Je veux dire, notamment, ça je vois en tant que psychologue aussi par rapport au diagnostic. Ou voilà, si par exemple, j'ai reçu un diagnostic de TDAH à l'âge de 29 ans. Et donc, au départ de ma pratique, je m'étais vraiment nichée dans les femmes TDAH. Parce que justement, ben, moi, j'avais eu ce diagnostic, et puis du coup, j'étais, ah voilà, c'est la pièce du puzzle qui me manquait, pour qui explique tout, et voilà, j'étais très, très contente d'avoir ce diagnostic. Et donc, finalement, j'avais mis tous mes problèmes, c'était le TDAH. Et ben, c'était, voilà, c'était aussi assez pratique, finalement, comme
D'où
stratégie.
le fait que vous êtes mis donc dans une case et
Oui,
ça
ben
vous a
c'est
fait
ça,
niche.
finalement. Après, ben
Quant
justement,
à vos patients, si je suppose.
ben, là,
Niche, parce
au
que vous
tout
parliez de
début,
niche.
oui, c'est ça, mais au tout début que j'ai reçu mon diagnostic, j'ai pas tout de suite commencé à
Ah
travailler
oui, je
là-dedans.
comprends,
Justement,
oui.
j'ai d'abord moi-même, j'étais très à fond là dans voilà, j'étais dans ce truc TDAH, je vivais TDAH, je faisais partie de groupes TDAH, etc.
Ah oui.
Oui, c'était. Voilà, donc toute ma vie était vue à travers le spectre du TDAH. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte aussi que c'était très limitant parce que, comme le TDAH, en plus, c'est un trouble neurodéveloppemental, et donc on nous dit bien que ça ne se guérit pas, on vit avec. Voilà, c'est une neuroatypie, donc voilà, c'est. Eh ben, j'en étais un peu arrivée à cette conclusion très confortable que je pouvais rien faire pour certains de mes problèmes, notamment la procrastination, etc. Voilà, je me disais, ben, c'est le TDAH.
Ce qui peut s'entendre.
Mais en même temps, ben, ça m'évitait de chercher des
Tout
solutions, de
ça,
vraiment
oui.
de et au bout d'un moment, ben, après, justement, j'ai lancé ma pratique, j'ai commencé à travailler dans cette niche-là, et je voyais, ben, finalement, ben, que les personnes qui venaient, qui me contactaient, n'avaient pas vraiment de diagnostic. Elles avaient envie d'avoir la confirmation qu'elles avaient un TDAH ou comme ça. Je ne fais pas de diagnostic, hein, je précise, je suis psychologue. Il n'y a que les psychiatres qui peuvent faire des diagnostics. Mais il y avait
Important de le
vraiment
rappeler.
cette recherche d'explication simple à une problématique complexe. Oui, finalement, ce que je veux dire par là, parce que pour répondre à votre question, justement, au
Oui.
côté que ça peut enfermer dans une case, c'est que au bout d'un moment, quand on s'identifie vraiment à cette étiquette, on cesse de chercher des solutions. Et pour faire partie du groupe, finalement, ben, ça, on ne veut pas forcément s'en sortir ou comme ça. Je ne dis pas qu'on se sort du TDAH. Encore une fois, c'est un vrai trouble. Effectivement, c'est neurodéveloppemental, on n'en guérit pas, on vit avec. Par contre, après, je pense aussi qu'il y a un peu aussi un phénomène, entre guillemets, de mode. Hein, parce que sur les réseaux, maintenant,
C'était la question que j'allais vous poser.
c'est devenu aussi très à la mode. C'est très vendeur. Et ça peut finalement être un peu une prison dans la quête de solutions ou d'aller mieux. Et on.
Ralentir,
Oui.
de faire ralentir justement plutôt que faire avancer puisqu'on est on reste obsédé par ça.
Oui, et même en fait, même pas ralenti, en fait, c'est juste que ben, des fois, si on est simplement, quand vous dites là justement l'appartenance à un groupe, ben, finalement, si le marqueur d'appartenance du groupe, c'est une étiquette, on ne va pas chercher à s'en libérer.
Voilà.
Donc oui, ça peut freiner la quête de solution.
D'accord.
Après, par contre, encore une fois, l'appartenance à un groupe, je trouve ça très bien parce que ça peut être une source de soutien. Ça permet de pouvoir échanger avec des personnes qui partagent des problématiques similaires, de se sentir moins seul. Donc c'est génial. Mais ça doit être vraiment une communauté d'entraide qui cherche justement à l'évolution, à trouver des solutions, et pas juste à être dans un espace où on est dans cette posture un peu victimaire et où on est juste un peu à se plaindre de nos difficultés ensemble, etc. J'ai pu voir des deux, en fait, moi-même personnellement aussi dans les groupes auxquels j'ai adhéré ou les groupes de parole comme ça. Il y a vraiment les deux. Et il y en a qui sont vraiment extrêmement dans la bienveillance, mais aussi dans cette recherche de solutions où on se soutient, etc. Et ça peut être ultra aidant, justement, de se sentir moins seul, d'avoir des contacts sociaux. Ça nous manque aussi à notre époque. Mais il y a aussi plutôt les groupes où finalement, un peu, on est dans l'entre-soi, on est un peu à se plaindre de nos problèmes. Et puis, oui, la société n'est pas adaptée à nous. Voilà, c'est difficile. Oui, c'est dur. Et voilà. Et c'est sympa. Ça soulage sur le moment. Mais en fait, c'est pas du tout. Ça nous enlève tout pouvoir. Hein. À partir du moment où on se met dans une position de victime, de toute manière, on n'a plus de pouvoir. Hein.
Ouais.
Donc. Je pense important de questionner aussi les groupes auxquels on adhère et de voir aussi si ça freine justement la libération de la souffrance ou si ça justement ça nous y enlise.
Et donc je rappelle hein, pour les gens qui seraient persuadés d'avoir un trouble quelconque, hein, vous avez bien et je reprécise psychiatre.
Oui, alors, psychiatre ou médecin neurologue ou comme ça, mais ça doit vraiment être un médecin.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vois des psychologues qui font ce genre de diagnostic.
Mais il y a aussi beaucoup d'autodiagnostics. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, maintenant, sur les réseaux sociaux, les contenus sur la santé mentale sont très démocratisés.
Ouais.
Ce qui est très bien, on a libéré la parole, c'était un tabou avant, c'est top qu'on en parle. Sauf que c'est à double tranchant, parce qu'il y a aussi de plus en plus d'autodiagnostics. Et le TDAH, les symptômes sont ultra peu spécifiques.
Ouais.
Je veux dire, ça peut toucher beaucoup de monde, avec plein d'autres problématiques. Et même si moi j'ai reçu un diagnostic officiel par un psychiatre, je vous avoue que parfois je me pose la question si vraiment j'ai un TDAH ou pas, parce qu'il n'y a pas d'IRM ou un examen vraiment qui est clair et net. C'est un examen, c'est un examen clinique, donc enfin ça c'est basé quand même sur des tests, mais c'est des questionnaires, des choses comme ça. Enfin voilà, ça peut être très complet. Il y a des bilans et tout qui sont très complets, mais il n'y a pas non plus un marqueur du TDAH. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'on a peu de recul sur quels sont les effets sur le cerveau de cette surabondance d'informations et de cette évolution exponentielle de la technologie ces dernières années. Mais ça a été hallucinamment vite, je veux dire. Et on n'a pas le recul nécessaire pour voir quels ont été les impacts sur le cerveau, sur la concentration, sur etc. Et je pense que les symptômes peuvent très bien se mélanger avec ceux du TDA, je veux dire, la procrastination, le manque de concentration, l'hyperactivité mentale, etc. C'est des choses qui peuvent arriver dans d'autres troubles et qui peuvent aussi être après une conséquence d'une exposition à toute cette masse d'informations. Encore une fois, c'est une hypothèse, hein, parce qu'on n'a pas justement les études et le recul nécessaire non plus. Mais... voilà, après, je pense qu'il faut faire vraiment attention avec ces autodiagnostics. En plus, les contenus sur la santé mentale qui sont partagés sur les réseaux sociaux ne sont pas toujours d'une grande qualité. Hein. Et il y a aussi beaucoup de gens qui se prétendent professionnels de santé mentale parce qu'ils ont lu 3 livres de développement personnel. ou qu'ils ont fait une formation en ligne sur Udemy et puis qu'ils sont coachs, etc. Non. Non, on joue pas avec la santé mentale des gens, je suis désolée.
C'est inquiétant. Oui.
C'est très grave, ça devrait être puni d'ailleurs, et je pense que là, il n'y a pas vraiment de réglementation, que ça devrait être un peu plus réglementé à ce niveau-là, parce que...
Oui, ça doit bien vous agacer.
Ça peut faire des gros dégâts, mais d'ailleurs, je le vois aussi chez mes patients. Enfin, je veux dire, la plupart ont eu une errance médicale énorme avant. Ils ont fait des thérapies et des trucs un peu qu'ils ont... avec des coachs et des trucs comme ça, finalement, ils sont sortis encore plus mal qu'au départ.
Délirant, quoi, en fait.
Voilà, il faut vraiment faire attention. Et puis, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, voilà, c'est... J'avais vu je ne me rappelle plus exactement du chiffre exact, mais une grande majorité des contenus sur TikTok à propos du TDAH ou de la dépression, etc., sont faux, factuellement.
Oui, il y a des gens qui se prennent pour
Je veux dire, en plus, ils jouent avec l'effet Barnum, c'est un peu comme l'horoscope. Ils vont dire des choses très générales où beaucoup de monde peuvent se reconnaître. Finalement, ça... Là, maintenant, ce qui est à la mode en ce moment, que je vois beaucoup, c'est TDAH, évidemment. le HPI, ça j'en peux plus, voilà, le haut potentiel intellectuel. Et en plus, ça c'est vraiment, mais c'est n'importe quoi, parce que le HPI en soi, déjà, c'est pas un diagnostic, hein, ça peut être mesuré, oui, mais ce n'est pas une source de souffrance. S'il y a une souffrance derrière, c'est pas dû au HPI. Le HPI est un facteur protecteur dans les études, je veux dire. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est très sexy de se dire « je souffre parce que je suis trop intelligent », mais à un moment donné, il faut aller creuser ailleurs, parce que non. Et ça m'énerve de voir ces trucs de HPI, TDAH, et puis il y a aussi l'hypersensibilité aussi.
Oh là là.
Bon, voilà, l'hypersensibilité, je pense qu'on devient tous un peu hypersensibles aujourd'hui aussi, parce que... Et encore une fois, on mesure comment la sensibilité? Et puis, qu'est-ce qui définit qu'une personne est trop sensible ou pas assez? Voilà, je veux dire. Mais par contre, ça marche bien aussi, parce que ce sont des diagnostics qui sont assez sexy quand même. Enfin, je veux dire, j'ai pas vu une grande traîne de « je suis schizophrène »,« je suis bipolaire » ou comme ça, non. C'est, les gens, ils aiment mieux se dire « je suis HPI », hypersensible, TDAH ». Et voilà, il y a... Tout ce qui est neuroatypie aussi est très à la mode, parce que je pense qu'il y a un peu cette recherche d'être spécial, d'être un peu, d'avoir ce côté atypique, et comme si être normal était une insulte aujourd'hui, en fait.
Je vous coupe juste. Un parent qui vous écoute et qui se dit « oui, mais bon, j'ai mon fils qui semble être HPI et... » Qu'est-ce qui s'ennuie pour ne pas dire autre chose en cours? Qu'est-ce que vous lui diriez?
Mais ça, c'est différent. Enfin, dans le sens où le HPI, oui, effectivement, ça peut valoir la peine de faire les tests. Si on a un enfant, par exemple, qui effectivement est en décalage, s'ennuie à l'école ou comme ça, de faire les tests aussi, peut-être pour voir s'il peut sauter une classe. Et la souffrance, souvent, qui est liée un peu au HPI, quand il n'est pas diagnostiqué, effectivement, c'est parce qu'il y a un peu un sentiment de décalage ou...
d'être un peu différent. Vous me dites que c'est différent, c'est-à-dire.
Ce que je veux dire, c'est que ben là, vous me parlez d'un enfant qui s'ennuie à l'école.
Un élève, oui.
Comme ça. Oui, là, ça a un intérêt de faire le test HPI.
D'accord.
Non pas pour forcément expliquer tous ces problèmes, mais pour voir s'il y a des solutions concrètes liées à, effectivement, un décalage avec le reste de sa classe et de chercher clairement une solution. Voilà, mais... c'est pas une maladie, hein, le HPI.
Comme vous l'avez dit tout à l'heure.
C'est pas un diagnostic, c'est pas une maladie, c'est pas un trouble.
Et on en vit très bien.
Après, on en vit très bien.
Ça dépend comment ça.
Encore une fois, voilà, c'est une caractéristique. Et s'il y a une souffrance, il faut peut-être aller la chercher ailleurs. Et le HPI fait que, effectivement, c'est souvent les personnes qui ont un HPI ont une tendance à beaucoup réfléchir, à faire beaucoup de liens, etc. C'est vrai que ça peut être anxiogène aussi, quand il y a cette tendance à beaucoup réfléchir, à se poser beaucoup de questions. Il peut y avoir une anxiété derrière, et ça peut être un facteur parmi d'autres. Mais de manière générale, s'il y a juste un HPI, c'est pas ça qui cause de la souffrance.
Comme le temps passe quand même assez vite, comment le refus de l'inconfort ou de la frustration influence-t-il aujourd'hui la manière dont les individus gèrent leur vie quotidienne et leurs relations?
Je pense que l'être humain a toujours cherché à éviter l'inconfort. Hein. Mais maintenant, c'est presque devenu intolérable d'avoir un peu d'inconfort. On a tendance un peu à mélanger l'inconfort avec la toxicité. Donc, quand vous dites la vie quotidienne, je dirais que le refus de l'inconfort, ça fait qu'on peut éviter finalement des choses qui pourraient nous faire évoluer. Parce que c'est souvent dans l'inconfort que se forge la résilience, qu'on grandit, qu'on évolue. Et dans les relations aussi, parce que je veux dire, une relation, c'est de l'inconfort. Si on veut une relation durable, ça demande parfois des compromis, ça demande des discussions, il peut y avoir des conflits. Et si au premier inconfort, on part, c'est compliqué, en fait, de pouvoir... Je veux dire, et je pense que maintenant, c'est un peu devenu cette il y a un peu cette
courant.
Tendance, voilà, un peu à partir dès que c'est inconfortable. Et à se dire, finalement, si c'est inconfortable, c'est que c'est toxique, c'est que c'est pas bon,
c'est
pas bon pour moi. Et alors là, je pense, et encore une fois, les relations toxiques, ça existe. Mais c'est très différent. Il faut savoir distinguer ce qui est inconfortable et ce qui détruit.
Voilà.
Et l'inconfort ponctuel, c'est normal. Vous en survivrez.
Et nous vivons dans une société qui offre davantage de liberté, de choix et d'autonomie que les générations précédentes. Pourtant, la souffrance psychologique semble continuer à progresser. Comment expliquez-vous ce paradoxe ?
Est-ce qu'elle continue à progresser ou est-ce qu'on la mesure plus aussi ? Attention, je ne sais pas, mais c'est important aussi des fois de nuancer parce que est-ce que ça n'existait pas ou est-ce qu'on ne le mesurait pas avant ? Voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les statistiques sur la santé mentale montrent bien que c'est pas au top. Après, l'autonomie, c'est un facteur de bien-être. Ça a été clairement montré que le fait de pouvoir avoir un pouvoir de choix, etc., c'est important pour l'individu. Mais ça va de pair avec un cadre, justement. Parce qu'une liberté sans cadre peut être justement source d'angoisse. Quand il y a trop de choix, ça ne rend pas plus heureux. Hein. C'est le paradoxe du choix, justement. Plus il y a de choix, moins on est satisfait de nos options. Et maintenant, aujourd'hui, on a l'impression que tout est possible. Donc, c'est encore plus dur de choisir quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la FOMO, la fear of missing out, de louper quelque chose. Ou la FOBO, fear of better option. Pardon pour mon anglais, mais la peur qu'il y ait une option qui soit meilleure. Donc, avec cette abondance de choix et cette liberté totale qu'on nous vend, ça ne rend pas forcément plus heureux. Ça rend juste un peu plus perdu et ça met encore plus de pression. Et en plus, avec les réseaux sociaux, on a tendance encore plus à se comparer. Donc, voilà.
Et a-t-on parfois confondu liberté et absence de limites ?
Oui, je pense. Oui, clairement. Et les limites, ce n'est pas de l'oppression. Ce n'est pas toujours de l'oppression. En tout cas, ça donne un cadre rassurant et c'est nécessaire, en fait, pour pouvoir exercer sa liberté. Et finalement, c'est mon opinion, mais je pense que la vraie liberté, elle commence quand on y renonce, justement. C'est quand on fait des choix et qu'on s'engage à quelque part. Parce que quand on s'engage, on renonce aux autres options. Et là, on peut finalement avancer. Parce que tant qu'on reste un peu dans ce flou, parce qu'on ne veut pas faire de choix pour ne pas se fermer de porte, en fait, on n'avance pas et on est dans une forme d'incertitude extrêmement mortifère. Donc je pense que c'est important de pouvoir avoir quand même un peu des limites, qu'on s'en mette nous-mêmes à nous-mêmes ou que ce soit un peu de manière plus générale pour pouvoir exercer réellement sa liberté.
Et une société peut-elle rendre, Justine Manet, ses membres plus fragiles en cherchant à les protéger de tout inconfort ?
Après, fragile, je ne sais pas quoi est-ce qu'on définit par fragile. Par contre, effectivement, je pense que là, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, dans nos pays, on n'est pas confronté à la famine ou à la guerre ou à des dangers qui mettent notre survie en jeu. Et donc, notre cerveau, il est quand même programmé pour chercher des menaces et donc il abaisse son seuil de vigilance. On a tendance à vraiment se sentir de plus en plus menacé par des choses qui n'auraient pas été menaçantes dans un contexte plus, finalement, où il y a moins de ce confort, etc. Donc, il y a une tendance à être un peu aussi plus sensible, justement, à se sentir plus facilement attaqué par des choses qui pourraient paraître un peu mineures ou on a tendance à voir du danger là où il n'y en a pas forcément. Et je pense que un peu cette volonté vraiment de nous maintenir dans ce confort, de vouloir éviter toute douleur, tout inconfort, ça entretient ça. Et finalement, en évitant l'inconfort, on renforce l'intolérance à l'inconfort et à la frustration. C'est important de pouvoir se confronter à l'inconfort, à la frustration et à voir qu'on survit en fait et que ça se passe bien en général et que même on en ressort grandi. Et justement, en voulant trop nous protéger de l'inconfort, je pense que la société devrait nous protéger vraiment des vrais dangers en fait, pas de l'inconfort. Il y a aussi de quoi faire dans l'insécurité, etc. Donc, qui nous protège concrètement et le reste, je pense que ça nous ferait un peu des fois du bien d'être un peu confrontés aux désaccords, aux conflits, aux petits inconforts de la vie normaux.
Alors, je voulais aussi revenir à un sujet, je crois, qui vous tient à cœur, au rapport homme-femme. Pourquoi les rapports homme-femme semblent-ils, justement, aujourd'hui, plus tendus ?
Pouf, vaste question.
Vous avez le temps.
Ouais, c'est tout un sujet. Enfin, ce qui me, on va dire, le sujet qui me tient à cœur, en fait, en ce moment, en tout cas, c'est ce tabou de la santé mentale des hommes. J'ai l'impression qu'on en parle vraiment très peu, pas assez.
D'accord. La souffrance masculine, donc.
Oui, le fait que finalement, les hommes souffrent, et souvent en silence.
Alors, est-ce que c'est, je vous coupe, après je vous laisserai développer, devenu justement un angle mort des débats et pourquoi les hommes parlent-ils de moins en moins de leur souffrance?
Oui, alors clairement, pour moi, c'est un angle mort. Est-ce qu'ils parlent de moins en moins? Ça, je suis pas sûre, par contre. Est-ce qu'ils en parlaient avant? Je n'ai pas l'impression non plus. Mais en tout cas, justement, en fait, ce qui m'énerve, c'est que aujourd'hui, on leur dit vraiment de plus en plus, oui, exprimez-vous, il faut que les hommes parlent de leurs émotions, qu'ils se déconstruisent et blablabla. Sauf que quand ils parlent, ben, souvent, ils se font délégitimer ou invalider. Où on va leur dire oui, mais et les femmes, ouin ouin, les hommes sont fragiles, mais de quoi ils se plaignent? Parce que l'homme a été assimilé pas à un oppresseur, à dominant, à voilà, parce qu'il y a eu toute cette histoire patriarcale où effectivement on a vécu une période patriarcale où l'homme était clairement le dominant et la femme oppressée à la maison, ceux qui n'avaient pas le droit de vote, etc. Et donc il y a vraiment eu cette domination masculine. Voilà, y a tout ce passif derrière. Sauf que je pense qu'aujourd'hui, la société a quand même évolué à ce niveau-là. Mais les mentalités, pas forcément, parce que
C'est ça.
l'homme blanc, cisgenre hétéro, hein, aujourd'hui, c'est le seul qu'on a le droit de critiquer, voilà, de haïr même, hein, dans certains discours, sans avoir de problème, en fait. C'est légitime. Mais par contre, il n'y a pas d'espace, de safe place pour hommes blancs cisgenres. Hein. Enfin, je veux dire, et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez grave, en fait. Parce que là, dernièrement, là, encore le 23 juin, là, est sorti ce rapport là, sur le masculinisme au
Tout à
Sénat.
fait.
Et effectivement, le masculinisme est un vrai problème. Et c'est inquiétant. Il y a eu des attentats qui ont été déjoués. Et voilà, c'est probablement, je ne sais pas si c'est en train d'augmenter, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est très présent sur les réseaux. Mais encore une fois, déjà, dans ce rapport,
C'est la sénatrice, c'est ça?
c'est Laurence Rossignol et
Oui, c'est une
deux de
sénatrice.
ses collègues qui ont fait ce rapport que j'ai lu, qui m'a consternée.
Bon, ça se ressent.
Mais déjà, qu'est-ce qu'on définit par masculinisme? Le spectre, il est tellement large que, je veux dire, ils mettent dans le même panier les influenceurs, les défenseurs des droits des pères, les terroristes incels, les mecs MGTO, là, je ne sais pas comment on dit ça, là. Tout est dans le même panier. Finalement, il n'y a pas de définition réellement claire. C'est comme s'ils étaient partis de la conclusion pour construire le rapport. C'est pas comme ça qu'on fait de la recherche, hein, je suis désolée. On part pas de la
Non, c'est pas
conclusion
juste.
pour se confirmer. Et dans tout le rapport, finalement, ils ont eu plusieurs interviews, machin, etc. Mais jamais ils ont été interviewés, le camp justement concerné. Peut-être justement ces hommes qui sont attirés par ces discours, pourquoi? Et de chercher à les écouter, de comprendre leurs raisons. Et quand je lis les recommandations qui sont faites, il y a presque rien par rapport à écouter les hommes. La seule fois où ils mentionnent d'écouter les hommes, finalement, c'est dans l'optique de prévenir ou d'identifier ben justement les dérives masculinistes, mais pas de les écouter pour les écouter. Et s'il y a cette augmentation du masculinisme, il y a probablement plusieurs raisons. Elles en ont identifié plusieurs là dans le rapport. Je ne me rappelle plus exactement lesquelles. Évidemment, il y a des facteurs de vulnérabilité familiaux, sociétaux, des humiliations, enfin voilà, il y a plein de facteurs de vulnérabilité. Mais il y a aussi quand même, je pense, ces discours féministes modernes, je vais dire néo-féministes, qui pour moi ne sont pas des féministes, qui sont ouvertement misandres, qui explosent quand même sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça contribue aussi à finalement mettre de l'huile sur le feu de cette guerre des genres, de cette, finalement, de ce... Oui, on le voit, hein, je veux dire, j'avais lu une statistique, je ne me rappelle plus exactement, là, 52% des hommes pensent que la société s'acharne sur eux. Ça avait fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, quand on lisait les commentaires.
S'acharne sur...
Sur les hommes, 52% des hommes pensent que la société s'acharne sur eux.
Ah, d'accord.
Et quand on lisait les commentaires, toutes les femmes, oh, les pauvres, les ouin-ouin, ça n'est de la fragilité, etc. Mais est-ce qu'on se demande pourquoi ils pensent ça? Et je veux dire, de les écouter réellement, de comprendre, de leur donner un espace de parole, enfin vraiment de, sans juger, sans idéologie, etc. Eh ben, ça pour moi, c'est vraiment un angle mort. Et je vois pas comment on peut lutter contre le masculinisme par la misandrie. Je suis désolée, pour moi, c'est complètement un contresens, on ne combat pas la haine par la haine. Et alors attention, encore une fois, je ne suis pas en train de critiquer le féminisme. Je ne dis pas que c'est à cause des femmes qu'il y a le masculinisme. C'est inexcusable. Hein. Comprendre ne veut pas dire excuser. Et le masculinisme, c'est dans le sens où je l'entends, c'est-à-dire vraiment cette haine des femmes, cette misogynie, cette volonté finalement de dire que l'homme est dominant par rapport à la femme, c'est complètement... débile,
oui, hein, pour pas dire autre chose.
Mais c'est pas en faisant le même discours à l'inverse qu'on le combat.
C'est ça.
Faut à un moment donné avoir un peu de bon sens et à
on
cette guerre entre.
Hein, c'est ce que vous voulez à peu près dire.
Et je pense qu'il y a un mouvement comme ça. Je dis pas que tout le, il y a un courant qui se revendique féministe mais qui ne l'est pas, qui est misandre. Et qui se fait beaucoup entendre sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, je pense que, comme toujours, sur les réseaux sociaux, on entend ceux qui parlent fort, mais la grande majorité se taise. Et je pense que la majorité devrait un peu, justement, commencer à parler aussi à un moment donné, parce que les hommes, c'est pas Andrew Tate, Alex Hitchens, etc. Et les femmes, c'est pas les féministes, néo-féministes, misandres, caricaturales. Je veux dire, entre deux... Il y a toute une infinité de personnes qui aimeraient justement retrouver simplement des rapports sereins, pouvoir... Cette guerre des sexes, elle ne sert à personne, cette méfiance généralisée. Je veux dire, les hommes n'osent plus aborder les femmes parce qu'ils risquent de se faire traiter de harceleurs ou voilà... Les femmes ont peur des hommes et sont constamment un peu sur leur garde et n'osent plus faire confiance. Après, il y a encore les applis de rencontre qui rentrent dans l'équation, qui n'aident pas non plus, parce que ça a contribué aussi un peu à cette déshumanisation aussi, société de consommation, on prend, on jette. Enfin voilà, c'est devenu un peu le supermarché de l'amour.
Oui, c'est ça.
Et voilà, les hommes se sentent lésés parce que la plupart, ils sont un peu transparents sur les applis de rencontre. Et les femmes sont frustrées aussi parce que finalement, elles trouvent beaucoup de choix, mais pas forcément pour des mecs qui veulent s'engager. Donc au final, aucun des deux camps n'est satisfait. Et on rentre de nouveau dans cette logique binaire, les gentils, les méchants. Et avec ce genre de logique, on ne va nulle part, en fait. À un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas être capable de discuter, d'écouter en face ce que dit l'autre et de pouvoir essayer de trouver une façon de valoriser notre complémentarité et puis de ne pas forcément... chercher l'indifférenciation aussi, parce que maintenant l'égalité est mélangée presque avec l'indifférenciation. Quand j'écoute certains discours féministes, encore une fois, je parle toujours du même, j'aime pas dire féministe parce que je pense être féministe justement parce que je suis pour l'égalité des droits, etc. Voilà. Mais là, c'est vraiment ce néo-féminisme qui ne cherche pas l'égalité mais qui cherche la revanche. C'est très différent. Et quand on écoute ces discours-là, finalement, ça. On cherche un peu l'indifférenciation. En fait, une femme pourrait être un homme comme les autres et les hommes devraient se déconstruire pour devenir des femmes. Donc, en fait, on voudrait presque inverser le pouvoir d'une certaine façon. C'est complètement con. Enfin, non, mais enfin,
ça
je veux dire...
ça
ne bénéficie à personne. Et...
Par contre, si je peux me permettre, Justine... Je peux comprendre quand même qu'il y a certaines femmes avec cette... Vous êtes bien d'accord qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, qu'une femme peut avoir peur aussi.
Tout à fait.
voilà.
Et par exemple, la misandrie, au niveau individuel, peut être totalement expliquée. Je veux dire, une femme qui s'est fait agresser, violer ou comme ça, et qui développe une misandrie parce qu'elle va avoir tendance à généraliser à tous les hommes, c'est un réflexe de protection, c'est totalement normal. Et c'est, mais, je veux dire, ça c'est...
Surtout qu'on l'a vécu.
Clairement. Voilà. Mais par contre, je ne pense pas que parce qu'on a vécu un traumatisme personnel et que, qu'on a ce traumatisme, qu'on doit le généraliser à une idéologie sociétale. Je veux dire, non. C'est pas parce que une personne... parce que si on regarde, je veux dire, oui, la majorité des violences conjugales, c'est des hommes, etc. Mais en proportion, c'est une minorité d'hommes qui fait beaucoup de mal. Et qui fait beaucoup de mal aux femmes, mais beaucoup de mal à la gente masculine aussi, parce que justement, ça cause ces personnes que tout le reste des hommes est stigmatisé. Donc, c'est totalement normal que certaines femmes soient misandres par réflexe de... C'est un peu une stratégie de défense psychologique, et ça se travaille en thérapie aussi, parce que ça ne les rend pas heureuses, je veux dire, non plus. Développer la haine ne va pas aider à se sentir mieux. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est quand ça devient banalisé, valorisé, qu'aujourd'hui, on dit qu'on ne peut pas comparer la misandrie et la misogynie parce que la misogynie est systémique. Certes, je suis d'accord avec ça. Mais comment un phénomène devient-il systémique? En le laissant justement s'installer et en le normalisant, petit à petit. Je veux dire, un phénomène ne devient pas systémique du jour au lendemain. Et si personne ne tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, je veux dire, ça va devenir systémique.
Alors justement, en quoi la banalisation de certains discours anti-hommes ou anti-femmes complique-t-elle les choses?
Elle empêche le dialogue, parce que finalement, c'est un peu... chacun est... hommes et femmes, c'est bien des camps adverses, où on cherche à presque écraser l'adversaire. Personne n'en sort gagnant à cette guerre-là.
Non.
Et un discours qui attise la haine, en ayant ces discours misandres, on va faire, mettre de l'huile sur le feu au discours inverse. Ça va renforcer ce qu'elles prétendent combattre. Les masculines, les hommes sont de plus en plus finalement se sentent lésés. Ils vont développer une haine des femmes et donc la haine des femmes. Les deux camps s'alimentent mutuellement. L'un ne fonctionne pas sans l'autre, je veux dire, c'est comme l'extrême gauche et l'extrême droite finalement aussi, tous les extrêmes, ils se nourrissent, ils vivent l'un de l'autre, donc ils n'ont même pas d'intérêt de trouver une solution ou un terrain d'entente, parce que finalement, ça les arrange bien, un camp nourrit l'autre.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Donc...
Et transformer des difficultés ordinaires de la vie en diagnostic ou en pathologie peut-il avoir des effets paradoxaux sur la résilience des personnes?
Dans le sens où je pense que vous parlez un peu de cette idée qu'aujourd'hui, finalement, on a tendance un peu à... ce qui m'énerve un peu, c'est qu'on a tendance un peu à utiliser du vocabulaire psychologique pour tout. Dans le sens où on a un peu une petite blessure, c'est un trauma. Un petit conflit, c'est de la violence, etc. Donc vraiment, c'est tout. Il y a vraiment. Les mots perdent de leur sens finalement. Et déjà, ça contribue à banaliser les vraies violences, les vraies. Encore une fois, les traumas, c'est compliqué parce qu'effectivement, un trauma n'est pas défini par la gravité objective d'une situation. Mais aujourd'hui, finalement, je veux dire, ouais, je me suis cassé un ongle, c'est un trauma, quoi. Non. Et je pense que c'est important vraiment de remettre les choses à leur place, d'utiliser les bons mots et de pouvoir avoir... Là aussi, on en revient au réel commun. Parce que si tout est subjectif, comment on définit? Et ça devient même compliqué après, admettons par exemple, comme pour revenir par rapport au masculinisme ou comme ça, voilà. Là, dans les mesures, ils demandent de renforcer la sécurité, de censurer sur les réseaux ou comme ça les discours masculinistes et tout, parce que c'est un peu comme le racisme, c'est pas une opinion. ce serait un délit. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Le racisme n'est pas une opinion. Les discours haineux, ça devrait être quand même sanctionné. Mais qu'est-ce qu'on définit aujourd'hui sous le terme de racisme, de masculinisme, de... Voilà,
les mots ont un sens.
Les mots ont un sens à un moment donné. Donc, je pense que c'est important de pouvoir retrouver un sens.
Le temps passe vite, hein, Justine Monnen. Notre époque se pense très ouverte, mais assiste-t-on malgré tout à une nouvelle forme de conformisme?
Je pense quand même, oui, parce qu'il y a une forme de bien-pensance quand même. Ça devient un peu compliqué, je trouve, de s'exprimer sur certains sujets qui peuvent être considérés comme tabous. Oui, il y a un peu cette volonté d'être une bonne personne morale. Mais je veux dire, c'est pas forcément être une bonne personne de me faire l'autruche et de ne pas nommer les choses et les problèmes. Et oui, je pense que cette dictature un peu de la morale et de la bien-pensance fait plus de mal que de bien quand même.
Et le consensus, Justine, a-t-il parfois remplacé le débat? Pourquoi avons-nous de plus en plus de mal à tolérer le désaccord?
C'est un peu toujours... oui, on a tendance à éviter
le
conflit, le désaccord. Mais par rapport au débat aussi, c'est compliqué de débattre quand les personnes sont persuadées d'avoir raison et que leur identité est presque raccrochée à leur idéologie et à leurs opinions.
Ouais.
Et à partir du moment où on entre dans un débat en cherchant à convaincre et pas à comprendre, ça donne des débats stériles et on l'entend beaucoup à la télé ou même les débats politiques. Moi, j'écoute plus trop parce que c'est pas une recherche de discussion constructive. Et personnellement, moi, j'adore discuter avec des gens qui ont des idées différentes des miennes, justement, pour essayer de comprendre, pour les remettre en question, me challenger sur mes certitudes. Mais la plupart du temps, on cherche plutôt à convaincre. D'ailleurs, je conseillerais aux gens, justement, d'essayer de parler avec des gens qui ont des opinions différentes des leurs et de comprendre pourquoi. Essayer des fois de sortir de sa propre tête et pour se mettre dans la tête de l'autre et comprendre pourquoi il pense ce qu'il pense. Et après, se demander aussi pourquoi moi je pense ce que je pense. Quels sont mes biais? Je veux dire, ça je pense que c'est important.
Et pourquoi certains mots semblent-ils davantage servir à disqualifier qu'à comprendre?
Parce que c'est plus facile de simplement disqualifier quelqu'un en lui mettant une étiquette plutôt que de chercher à trouver des contre-arguments et de comprendre ce qu'il essaie de dire. Je veux dire, à partir du moment où quelqu'un dit quelque chose et qu'on lui met l'étiquette woke, islamo-gauchiste, facho, droitard ou j'en sais rien quoi, ben, c'est bon. La personne est discréditée, elle est ramenée à cette étiquette, et puis il n'y a plus besoin de débattre. C'est facile, c'est une bonne technique.
Oui,
si on veut éviter de réfléchir.
Voilà, c'est ça. Mais ça ne vole pas très haut, pour le coup.
Non, clairement pas, non.
Voilà. Et comment réapprendre à habiter le réel sans le nier ni l'idéaliser? Par exemple, on a encore un peu de temps, hein, quelle piste voyez-vous pour retrouver un peu de solidité commune, Justine?
Déjà, je dirais vraiment... de développer un peu sa métacognition, donc cette faculté de penser sur ce qu'on pense, de vraiment de pouvoir se remettre en question. En thérapie d'acceptation et d'engagement, on parle beaucoup de la diffusion, et ça, je pense, c'est vraiment important. C'est-à-dire de prendre un pas de recul avec nos pensées, de ne pas s'y identifier, de les voir comme des pensées, et de pouvoir justement détacher notre identité de ces opinions, de ces pensées, réfléchir d'où elles viennent, pour pouvoir aussi, des fois, simplement ne pas les écouter ou les challenger, et voilà. De pouvoir vraiment développer cette capacité à penser sur nos propres pensées. C'est pas forcément facile, on n'a pas l'habitude de le faire, mais ça me paraît assez essentiel à tous les niveaux. Je pense que c'est aussi important d'être attentif à sa consommation des réseaux sociaux, notamment, et de pouvoir revenir un peu quand même dans le réel, ça peut être chouette. Et de sortir justement de ces bulles algorithmiques qui ont tendance vraiment à polariser les opinions, à renforcer le biais de confirmation. D'aller dans le réel, de se confronter aux gens. Et ça permet aussi de sortir aussi des préjugés, de pouvoir se confronter vraiment à la réalité des choses parce que, et de voir dans le réel, par l'expérientiel des fois, que nos opinions sont erronées. De pouvoir aller aussi échanger avec des vrais gens et de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Des personnes qui ont des opinions complètement opposées aux nôtres.
Comme vous
voilà,
disiez tout à l'heure.
De pas rester que dans l'entre-soi. Je pense que c'est important. D'apprendre aussi à pouvoir ralentir. Parce qu'on est aussi dans une époque où tout va très vite. Où on a un peu cette tendance à être pris dans ce train du quotidien, travailler, voilà, tout va vite, vraiment. Oui, il y a un peu cette tendance à s'épuiser. La société valorise beaucoup la performance. Je pense que c'est important de sortir des fois un peu du faire pour être un peu plus dans l'être, pour prendre le temps d'échanger, d'aller vers l'autre. Parce que, ben voilà, on est aussi dans une société très individualiste, qui valorise l'indépendance. Mais je pense que l'indépendance est un peu un mythe parce qu'on n'est pas indépendant, en fait. On est tous interdépendants et on a tendance à l'oublier parce que on peut vivre seul, mais si on peut vivre seul, c'est parce qu'il y a des agriculteurs qui peuvent nous permettre de manger. Je veux dire, enfin, tout est interdépendant et on a un peu cette déconnexion du réel, vraiment, parce qu'on ne voit plus. On va au supermarché, voilà, mais on ne voit pas tout ce qui est derrière, toutes les chaînes, tout ce qui...
Oui.
Et donc,
toutes
de
les
pouvoir se rappeler...
Toutes les choses sont faites de façon...
C'est ça, et se rappeler qu'on n'est pas indépendant, on est interdépendant, on dépend tous les uns des autres, et...
À vous entendre, on est des robots, quoi, non ?
Non, justement pas.
D'accord.
Justement pas, parce que je pense que c'est vraiment de pouvoir retrouver ce lien et de se dire que c'est important de pouvoir faire société, de pouvoir vivre ensemble aussi et de valoriser cette interdépendance, pas uniquement cet individualisme où c'est le sacre du moi, 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 et il n'y a plus de nous en fait. Et je pense que remettre un peu de nous, c'est important aussi au centre, de se rappeler. Et... Oui, pour remettre le réel aussi, je pense que c'est important des fois de faire le deuil du monde idéal et de regarder les choses telles qu'elles sont. Ça, pour moi, c'est aussi extrêmement important parce que c'est bien d'avoir un idéal, c'est bien de vouloir améliorer les choses, de vouloir lutter contre les injustices, les inégalités. Mais le monde est inégalitaire, le monde est injuste. Je veux dire, ça a toujours été, ça le sera toujours. Et ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de lutter contre et d'essayer de limiter, mais il faut à un moment donné aussi faire le deuil de cette utopie d'un monde parfaitement égalitaire et parfaitement juste, parce que ça condamne les personnes à être constamment dans une forme de désillusion entre leur utopie et la réalité. Et ça aussi, c'est une cause de souffrance énorme en termes de santé mentale. Donc, de pouvoir accepter que les choses sont telles qu'elles sont. On peut faire ce qui est en notre contrôle pour améliorer les choses, mais tout n'est pas entre nos mains. Et de pouvoir aussi accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et de distinguer ce qui est entre nos mains, ce qui ne l'est pas. Et de ne pas forcément faire l'autruche et voir les choses telles qu'elles sont, vouloir les améliorer, mais sans rêver d'un monde parfait qui n'existera jamais.
Et en quelques minutes, y a-t-il un sujet que nous n'avons pas abordé et qui vous semble particulièrement important en ce moment ?
Non, il y en a plein, mais non, je pense que...
Par contre, est-ce que vous auriez un dernier conseil, une lecture ? Parce que je sais que vous lisez beaucoup, on le voit à travers vos publications, je rappelle Instagram, ou un outil que vous recommanderiez à nos auditeurs qui se sentent perdus dans cette période ?
Je dirais qu'en termes de livres, lisez des romans, des trucs qui vous sortent, qui ne vous font pas trop réfléchir. Des fois, ça fait du bien aussi. Et des choses qui vous font du bien. Mais autrement, j'aime bien le livre Le piège du bonheur de Ruth Harris pour rapport à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Mm-hmm. Il le vulgarise très bien, justement. Le fait que plus on cherche à être heureux, moins on est heureux, finalement. Mm-hmm. Et de cette... où il apprend les techniques de diffusion cognitive, d'ancrage, d'acceptation. Enfin, je le trouve très bien, ce livre. En plus, il y a une version illustrée qui est très sympa aussi. Et ben là, dernièrement, j'ai lu Le siècle des égarés de Julia de Funès, par rapport aussi un peu à cette idéologie d'identité que j'ai trouvé assez intéressant. Autrement, ma page Instagram. Non, je pense que je vais en rester là, dans, en termes de recommandations.
Très bien. Bah, écoutez, Justine Monet, je voudrais vous remercier très sincèrement.
Merci à vous.
Pendant plus d'une heure.
J'espère que je n'ai pas trop digressé.
Non, pas du tout. Non. C'était très clair. Pendant plus d'une heure, vous avez donc accepté de nous accompagner avec une grande finesse, soyons clairs, et une grande humanité écoutez, dans l'exploration de ce paradoxe troublant de notre époque. Hein. Plus de liberté, plus de choix, plus d'autonomie, et pourtant une souffrance psychologique qui ne cesse de progresser. Vous nous avez aidé à mieux comprendre les effets de la perte des repères communs, de la subjectivité qui prime sur le réel, hein, de cette quête parfois éperdue d'étiquette et d'identité, et du refus de l'inconfort qui fragilise tant d'entre nous. Mais surtout, vous nous avez montré que tout n'est pas perdu, je crois que ça, on l'a compris, que l'on peut réapprendre à habiter le réel sans le nier ni l'idéaliser, que l'acceptation des limites, des différences et de la nuance n'est pas une faiblesse, mais au contraire une force, et que cesser de lutter contre soi-même, clarifier ce qui compte vraiment pour nous et avancer dans cette direction même, dans l'inconfort, constitue sans doute l'une des ressources psychologiques les plus précieuses de notre temps. Donc vos réponses, vous n'avez pas digressé, vos réponses ont été à la fois lucides et porteuses d'espérance, et je suis certain que beaucoup d'auditeurs se sentiront moins seuls et un peu plus armés après cet échange. Justine Monet, merci du fond du cœur d'avoir été donc mon invitée aujourd'hui, j'espère vous réinviter prochainement.
Mais avec plaisir.
Et chers auditeurs, merci donc à vous d'avoir écouté ce grand entretien, que ce moment vous aide où que vous soyez à retrouver donc un peu plus de solidité intérieure et de lien avec le réel. Prochain livre journal le 16 août. Bonne semaine.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Numérique dirigé par Jean-Étienne Posa, émission préenregistrée le 4 juillet 2026, diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 19 juillet de 21h30 à 23h et réalisée par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.